Khalid Houssi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes d'origine sénégalaise. Vous avez été correspondant au Sahel de la chaîne d'information France 24, basée au Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, jeune journaliste, à vous intéresser à l'auteur malien Yambo Wologem, né en 1940 et décédé en 2017?
Tout est parti de l'écriture d'un ouvrage collectif sur la France-Afrique intitulé La France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir aux éditions du Seuil. C'était en 2020, c'est un ouvrage collectif. Et moi, j'étais chargé avec ma consœur Fanny Pigeot du chapitre Intellectuel et africain contre la France-Afrique. Et dans mes recherches, j'ai découvert des auteurs africains que je connaissais déjà, comme Amadou Ampateba, Amadou Kourouma, Med Ondo, Ousmane Sembène. Et il y avait un nom, Yambo Wologem, dont j'avais jamais entendu parler. J'ai fait des recherches, j'ai vu un destin incroyable, une histoire incroyable. Et je me suis dit à la fin de l'écriture de ce chapitre que je ne pouvais pas en rester là et qu'il fallait absolument en faire un documentaire, car j'avais remarqué que de nombreuses personnes ne connaissaient pas Yambo Wologem et son œuvre.
Yambo Wologem est le premier Africain à recevoir le prix Renaudot en 1968. Auteur du Devoir de violence, il reçoit les éloges du Tout Paris littéraire. Pourtant, son livre est très mal reçu en Afrique. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons?
Il faut se replacer dans le contexte. On revient en 1960 où il y a une vingtaine de pays africains qui se libèrent d'une domination et de la colonisation européenne. Et à cette époque, la tendance était plutôt de magnifier l'Afrique, de valoriser l'Afrique. Et Yambo Wologem arrive avec Le Devoir de violence qui est un véritable brûlot à l'époque. Parce que dans son livre, il dit que bien avant la colonisation européenne en Afrique, il existait de l'esclavage interafricain, des guerres interafricaines, de l'esclavage arabo-africain. Et à cette époque, ça a été très mal perçu en 1968. Et il faut savoir qu'il y a des écrivains, par exemple le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui était aussi un poète, a critiqué violemment Wologem.
Léopold Sédar Senghor parlait selon l'un des témoignages de votre film de trahison. Les mots sont très durs à l'encontre de l'écrivain malien.
Oui, les mots sont très durs. C'était dans le magazine Congo Afrique, je crois qu'il n'existe plus. Il a qualifié le livre d'affligeant et il a accusé Yambo Wologem de nier ses ancêtres. Il faut savoir qu'il y a eu une passe d'armes entre Yambo Wologem et Senghor, une passe d'armes qui ne dit pas ces mots. Je peux vous rappeler un épisode lorsque Yambo Wologem avait une interview à la télévision française. Il avait eu cette phrase où il disait « La négraille a profité du colonialisme pour s'abreuver de culture blanche et pour mieux s'élever » parmi les Noirs. Et quand il parle de négraille, il parle surtout de négritude. Je pense que Senghor l'a pris pour lui-même et c'est pour ça qu'il a eu une virulence dans ses propos envers Yambo Wologem. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'auteurs africains qui ont salué l'œuvre de Yambo Wologem.
L'année 1972 est un point de bascule pour Yambo Wologem. Il est accusé de plagiat, il est vilipendé, conspué, sans que sa défense ne soit entendue. Il retourne au Mali dans la ville de Sévaré. Vous y êtes allé l'an dernier en quête des témoignages de sa famille. Racontez-nous ce que vous avez découvert sur lui et comment a-t-il vécu?
Tout d'abord, j'ai décidé d'aller à Sévaré parce que dans mes recherches, il n'y avait pas beaucoup de traces du Yambo Wologem du Mali. On connaissait beaucoup le Yambo Wologem français, l'écrivain, provocateur. Mais lorsqu'il est rentré au Mali, on a perdu sa trace. Il y avait Christopher Wise, un universitaire américain qui est parti le voir en 1997, qui a écrit un livre à la recherche de Yambo Wologem. Mais on n'avait pas trop trace de Yambo Wologem au Mali. Donc je suis parti à Sévaré. Alors ce que j'ai découvert, c'est que lorsqu'il est rentré au Mali, tout d'abord en 1974, il fait un premier retour au Mali et les gens l'ont décrit comme une personne malade. Il était enflé d'après leur dire et même certains disaient empoisonné, mais ça reste à prouver. Et Yambo Wologem, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a tenté de revenir en France en 1976 pour, entre guillemets, faire la paix avec son éditeur Le Seuil et de repartir sur un nouveau pied, mais Le Seuil n'a pas voulu, donc il est rentré définitivement au Mali. Et au Mali, Yambo Wologem s'est retiré et a vécu reclus. Il passait ses journées, d'après les témoignages de ses proches, à la mosquée. Il est devenu très croyant. Il jeûnait de nombreux jours dans l'année. Et sa relation avec ses enfants, c'était une relation aimante, mais il voulait pas que ses enfants découvrent son passé français. Son fils Ambibé m'a témoigné que, par exemple, Yambo Wologem leur interdisait d'aller à l'école française. Il préférait qu'il aille dans une école arabophone. Donc, il passait son temps à la mosquée, il changeait souvent de mosquée, n'avait pas beaucoup d'amis, il voulait vivre seul et très certainement que la blessure était tellement forte qu'il voulait oublier ce qui s'était passé en Europe et en France.
Justement, ce retour au Mali était pour Yambo Wologem une blessure, vous l'avez rappelé, et c'est d'ailleurs le titre de votre documentaire. Pensez-vous qu'il aurait été autant honni s'il n'avait pas été africain?
Jean-Pierre Cordier, qui était son camarade au lycée Chaptal à Paris. Il a vécu ça comme du racisme. Il dit qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont été accusés de plagiat. Ils ont eu un procès et qu'ils ont pu réécrire. Jean-Pierre Orban, qui a fait une longue recherche sur le cas Yambo Ologem, lui aussi dit dans le documentaire que très certainement, il y avait du racisme. À l'époque, lorsque Yambo Ologem a été accusé de plagiat, beaucoup de journalistes français remettaient en cause tout d'un coup le fait qu'un Africain ait pu écrire une telle œuvre d'une telle qualité. Les mêmes qui l'avaient encensé lorsqu'il a eu le prix Renaudot l'ont lâché. Donc très certainement, il y a eu une part de racisme.
Par ses soutiens et ses admirateurs, Yambo Ologem est considéré comme un génie littéraire. L'auteur Mohamed Bungarsar lui a consacré en 2021 un roman victorieux du prix Goncourt. Vous réalisez-vous un documentaire sur sa vie? Selon vous, assiste-t-on à une forme de réhabilitation posthume de l'auteur malien?
La réhabilitation n'a pas commencé avec mon documentaire. En 2002, l'éditeur Pierre Astier a décidé de rééditer Le Devoir de violence aux éditions Serpent à plumes avec l'accord de sa famille en France. Ensuite, on a eu en 2015 Jean-Pierre Orban et Samy Tchak qui ont décidé de rééditer Les mille et une bibles du sexe. C'est l'un des livres de Yambo Ologem. C'est un livre qui ne parle pas du tout d'Afrique. C'est un livre érotique à la limite de la pornographie qui se moque de la sexualité de la bourgeoisie parisienne et de province. Donc c'est ça tout le génie de Yambo Ologem. Il est là. Il peut écrire un livre sur un empire africain et aussi un livre sur la sexualité blanche, un livre à la manière d'un Sade. Et puis arrive Mohamed Bougarsar en 2021 avec son roman La plus secrète mémoire des hommes, qui obtient, clin d'œil du destin, le prix Goncourt. Et c'est vrai qu'il y a une certaine réhabilitation de Yambo Ologem, mais malheureusement, à chaque fois qu'il y a eu un engouement, c'est retombé. Donc avec mon documentaire, j'espère que cet engouement va rester pour Yambo Ologem et j'espère qu'au moins il restera dans le débat parce qu'il mérite d'être dans le débat et qu'il s'installe sur la table des plus grands auteurs africains.
Khalid Oussi, merci.
Merci à vous.